Non, ça va bien. Salutations en passant. Moi et Diane, on a eu le privilège d'aller à Rouyn-Noranda passer quelques temps. Et on salue l'Assemblée du Cap de la Madeleine, de l'Assemblée Rouyn-Noranda, les frères et les sœurs là-bas qui vivent des choses aussi. Et c'est intéressant, lorsqu'on se promène parmi le peuple de Dieu, on rencontre des gens, puis on s'aperçoit que on vit tous plus ou moins les mêmes problèmes, les mêmes épreuves. Et le truc dans ça, c'est qu'on pense qu'on est tout seul qui vit ça. Et on se sent isolé dans notre coin, puis on sent que personne ne va nous comprendre si on en parle. Et c'est toute la chair qui domine ces choses-là. Mais à tous les cas, c'est pas mon sujet, mais mon sujet, c'est le portrait d'un homme de Dieu passionné. Tournez dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans 1 Samuel. Je vais, ce matin, j'ai ressorti 5, cinq, ça va être assez. 5 traits d'un homme de Dieu passionné. Et tout de suite, en partant d'emblée, là, j'aimerais dire que quand j'emploie le mot passionné, je ne veux pas lui donner le sens que j'ai vu cette semaine à la TV, là, les passionnés d'Elvis Presley. Savez-vous qu'il y a plus de 1000 imitateurs d'Elvis Presley qui existent? Savez-vous qu'il y a des gens qui aiment tellement Elvis qu'ils tatouent dans le dos, ses bras, un peu partout, ça se tatoue sous le corps, Elvis Presley, 40 ans, anniversaire de son décès. Il y a même des gens qui se déguisent en Elvis Presley pour marier des gens à Memphis. J'écoutais toutes ces choses-là que les gens... Il y a un type qui avait un auto, là, et puis il avait tout peinturé l'auto, puis c'était avec le visage d'Elvis. Puis c'était marqué « The King », gros comme ça, là, « The King ». Et lorsqu'on regarde ça, on se dit à nous-mêmes, le monde et ses idoles, ses héros. Puis on ne peut pas empêcher ça. Hey, Elvis, le premier à faire ci, le premier à faire ça. Fait que moi, j'en ai un héros ce matin pour vous. C'est Samuel. Samuel qui est un héros extraordinaire parce que sa vie... passionné avec Dieu, ne l'a pas détruit et ne l'a pas emmené dans un extrême, mais lui a donné un équilibre dans sa vie totalement marchant avec Dieu. Il y avait des traits là-dedans qu'on peut nous se reconnaître, que j'aimerais partager avec vous ce matin. Vous savez, la vie d'un homme passionné commence par une femme. Une femme de Dieu. Une femme de Dieu qui avait une requête pour Dieu. Et cette femme a été exaucée. Et à cause de cela, le Seigneur a permis que Samuel puisse aller à l'âge, il y en a qui disent 12 ans, il y en a qui disent 20 ans. En passant, nous, on dit qu'on devient un adulte à 18 ans, mais dans ce temps-là, tu ne devenais pas un adulte à 18 ans. Tu étais prêt pour le travail sérieux à 40 ans. Le reste du temps, tu te pratiquais. Mais on voit que sa vie passionnée commence par une femme. Passionnée. Une femme qui a pris le temps de prier Dieu, qui a pris le temps de se consacrer à Dieu et consacrer son enfant à Dieu. Et c'est un travail qu'on peut faire chacun de vous, mesdames. Je ne peux pas dire nous, les hommes aussi, naturellement, nous sommes là pour être là pour diriger, puis assister, puis être des complices. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a parti du bon pied. Mais on ne part pas tous du bon pied. On a des expériences dans le passé qui nous emmènent à certaines choses. Et c'est pour cela que j'ai pris cinq observations sur le trait d'un homme de Dieu passionné. Puis sa passion n'est pas faite comme ceux qui sont passionnés d'Elvis ou qui vont aller dans des extrêmes. Avoir marqué les passions de ce monde amène les gens dans les extrêmes. Il y a un type qui était passionné de faire de la peinture, des dessins. Là. La caméra entre chez lui, là, il y avait des dessins sur le plancher, partout. Il y avait des dessins sur les murs, il y avait des dessins sur le plafond. Puis le gars... il n'était pas capable de s'empêcher de dessiner. Il ne pouvait pas s'empêcher. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, Il a perdu son emploi, c'était sa passion. Et là, la caméra était devant lui, là, puis c'est ma passion, c'est ma mais une passion qui détruit l'être humain, c'est pas cette sorte de passion-là que je voudrais vous partager ce matin. Mais une passion pour Dieu qui est réelle, équilibrée et qui ressort d'une relation intime et réelle avec Dieu, avec un homme qui est mort déjà. Je ne prendrai pas un homme vivant pour en parler d'un homme vivant. Je vais prendre un homme mort. C'est facile de parler des hommes morts parce qu'on peut lire à propos d'eux et ils ne sont pas là pour dire « tu n'as pas assez dit ou tu n'as trop dit ». Fait qu'on va prendre un homme mort, un homme qui a vécu il y a plusieurs années et on va regarder ensemble ces choses-là. Et lorsque, vous savez, lorsque Samuel, on dit de Samuel, il grandit. Il grandit, Samuel. Savez-vous, à quelque part, là, on part avec l'idée qu'il est un petit bébé, mais disons qu'il est plus vieux. Il grandit, mais quand on grandit, quel phénomène arrive automatiquement? Quand on grandit, on, normalement, je sais qu'il y en a que ça n'arrive pas, là, on mature. Supposément, que quand on est vieux, on se posait d'être plus mature que lorsqu'on avait 15 ans, ou 18 ans. Moi, je peux vous dire, à 69 ans, quand je fais un petit voyage dans le temps, il y a bien des décisions que j'ai prises dans le passé que j'aimerais oublier ou que je n'aille pas pris. J'ai manqué de maturité, j'ai manqué de sagesse. Et c'est pour cela, en fin de compte, que lorsqu'on voit dans la parole de Dieu l'histoire de Samuel, le Samuel, est dans le chapitre 2, verset 26, il est marqué « Le jeune Samuel continuait à grandir. » Et il y avait une autre phrase qui dit « Et il était agréable à l'Éternel. » Il devenait de plus en plus à l'aise devant Dieu. Il maturait spirituellement. Moi, j'appelle ça avoir du bon sens spirituel. Et ça, le bon sens spirituel, tu le vois tout de suite en parlant avec quelqu'un. L'équilibre, c'est quelque chose qui est terriblement facile à détecter, comme le déséquilibre. Parce qu'il y a un bon sens à quelque part, spirituellement parlant. Et Samuel grandissait et maturait et devenait un homme de Dieu année après année après année, qui était consacré à l'Éternel. Et Anne qui priait, qui a emmené son fils à Élie, était une femme qui l'Éternel a béni pour, avec d'autres enfants, elle était stérile. Et j'aimerais qu'on aille à la page, chapitre 3, s'il vous plaît, on va puiser dans le chapitre 3, les traits. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. J'aimerais vous dire, rendu là, c'est qu'on sort des juges. Dans le temps de Micah, là, c'est chacun suivait, chacun faisait ce qui lui plaisait en Israël. C'était le chaos total. On sort des juges avec un chaos total. Et Samuel, qui est le dernier et le premier des prophètes et le dernier juge, à fin de compte, va faire la transition entre l'histoire d'Israël pour la monarchie. Les rois vont arriver, là. Saül arrive, David arrive. Mais ils ne sont pas encore là. Et Dieu va choisir ce héros, ce merveilleux héros qui est Samuel, pour faire la transition entre ces deux époques extrêmement difficiles pour Israël. Dieu a son plan. Et ça nous rappelle que dans nos vies, c'est la même chose. Dieu a son plan. Il y a des décisions dans nos vies, il y a des temps dans nos vies où on a des décisions à prendre qui sont charnières, qui sont vraiment importantes, qui vont affecter le reste de votre vie. Et à vous penser toutes les décisions que vous avez prises entre 18 et 25 ans. Pensez à ça deux minutes. Si vous êtes, passé cet âge-là, vous avez l'occasion de réfléchir deux fois avant de prendre une décision. Moi, toutes les décisions que j'ai prises entre 18 et 25 ans, il y en avait des bonnes, des très bonnes. J'ai pris ma décision de marier ma femme. Et j'en ai pris des mauvaises, des très mauvaises. Je manquais de maturité. Et parmi Israël, c'était cela. Israël était dans le chaos et Dieu a choisi cet homme pour ramener Israël, pour parler à Israël, pour conduire Israël. Et c'est un homme qui a été fidèle. On va voir ça ensemble. Quatre fois, Dieu appelle Samuel. Dieu appelle Samuel. Nous lisons dans le texte quatre fois. Dieu, l'Éternel appelle Samuel. L'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela Samuel. Quatre fois. Dieu est patient. Il ne comprenait pas. Ah, vous allez dire, oui, mais c'était un petit jeune. Non, non, il était assez vieux pour savoir ce qu'il faisait. Dieu l'appelait, mais il ne savait pas quoi faire avec ça. Voyez-vous, à quelque part, Dieu appelle, puis il est patient. Et avec nous, c'est la même chose. Peut-être Dieu vous appelle à quelque chose dans votre vie qui vous a appelé déjà, qui va vous appeler encore, puis qui va vous appeler encore, puis qui va vous appeler encore, parce que Dieu il a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu il a un plan merveilleux pour sa gloire à lui. Et Dieu est patient avec nous. Et souvent, entre les appels de Dieu dans nos vies, il peut distancer des années, des mois. Puis à quelque part, j'aimerais vous conter une histoire qui est... Vous savez, combien d'hommes, je me souviendrai toujours une fois, il y avait un homme d'à peu près de 80 ans qui donnait son témoignage un mercredi soir à l'Assemblée au Cap. Un monsieur de Sorel, je ne me souviens plus de son nom. Je me souviens de son témoignage. Un monsieur âgé. Mais moi, quand je l'ai vu, j'étais un petit vieux. J'étais jeune dans le temps, pas mal. Là, je ne rappelle plus personne de même. Mais, tu sais, quand tu es jeune, hein? Puis, je l'ai écouté. Puis là, commence à donner son témoignage. Il avait délaissé le Seigneur longtemps, puis il était revenu au Seigneur dernièrement, puis il donnait son témoignage, comment que sa vie a été sabotée par la décision de prendre un job qui l'empêchait d'aller à l'église le dimanche. Puis quand il donnait son témoignage, il nous exhortait, nous autres les jeunes, à être fidèles au Seigneur. Puis quand il donnait son témoignage, ce qui me rappelle encore, là, c'est ce qui m'a impressionné, il a commencé à pleurer. C'est rare que tu voyais un adulte pleurer dans le temps. Là. Il pleurait en avant. Il pleurait. Parce qu'il a refusé l'appel de Dieu dans sa vie. Puis c'était clair dans sa tête. Dieu l'avait appelé. Mais il y a une décision qui l'a fait sortir de la volonté de Dieu, qui l'a fait sortir de cet appel de Dieu. Et cet homme, des années plus tard, nous comptait, ne résistez pas à l'appel de Dieu dans votre vie. Samuel a été appelé quatre fois. Il a été aidé, Samuel. On l'a aidé, Samuel. Élie a dit, écoute, tu vas dire ça. Ça, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Lorsqu'il va t'appeler, l'Éternel, tu diras ça. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Puis il a transmis la parole de l'Éternel à Élie. Et il a révélé, en fin de compte, qu'Élie, il a fait une faute grave, sa maison pourrait être punie. Ah, pauvre Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a établi ses fils juges en Israël. Il ne réprimandait pas ses fils. Bien, il ne les a pas établis juges, non, mais il était influent. Il n'a pas réprimandé ses fils qui étaient un déshonneur pour l'Éternel. C'est dur de trouver un père parfait dans l'Ancien Testament. Je pense qu'il n'y en a pas. Essayez d'en trouver, je ne l'ai pas trouvé. C'est dangereux, vous me le direz. C'est un travail difficile. Et là, l'Éternel va juger sa maison. Mais Samuel arrive, verset 19. Samuel, 3:19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Première constatation d'un homme passionné, c'est ça mature, ça grandit. Ça ne pense plus comme avant. Les pensées changent. La maturité vient. l'équilibre vient. Et la croissance, mes amis, c'est ça que ça fait partie de ce travail difficile de maturer comme chrétien, c'est quelque chose de difficile. De devenir un adulte dans la foi. Arrêter d'être emporté tout vent, toute doctrine. Arrêter d'avoir des faux buts chrétiens. Arrêter de prendre des tangentes qui nous emmènent loin de Jésus. Arrêter de prendre des tangentes qui nous emmènent dans des théories qui ne finissent plus. La maturité chrétienne, c'est l'équilibre. Éviter les extrêmes. Être en plein centre, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi. Celui qui l'amène à la perfection. Nous tous, donc, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés, qui est le même verbe qu'on voit dans Romains 12, transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La transformation, la croissance, c'est nous qui croyons. Le Seigneur est grand en masse. Ce n'est pas le Seigneur qui grandit en nous, c'est nous qui grandissons dans le Seigneur. Et cette croissance fait en sorte qu'on va refléter la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. On va être transformé. On va ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. Romains 8 nous dit qu'on est prédestiné à quoi? Ressembler à Jésus. Et ce travail se fait par un processus de croissance. Samuel n'est pas arrivé à la maturité du jour au lendemain. Il y a eu des années de formation par le Seigneur. Transformer les mains de gloire en gloire. C'est un processus, la vie chrétienne. Et Samuel, mes amis, était un homme de Dieu qui, vers l'âge de 12 ans, je crois qu'il avait 12 ou 20 ans, peu importe, mais il était assez vieux, parce que, vous savez, sa mère le suivait une fois par année, elle lui amenait une robe. Non, c'est pas un transgenre, là. Il amenait une robe une fois par année. Pourquoi? Pourquoi qu'elle amenait une robe une fois par année? Parce qu'il grandissait, c'est logique, hein? Il maturait. C'était pas un petit bébé. C'est pas un petit bébé. Elle l'a sevré, puis elle l'a consacré à l'Éternel. Un homme, 2,26, agréable à Dieu, comme on a vu tout à l'heure. La croissance fait en sorte qu'on est préoccupé d'être agréable à Dieu. Puis je pensais à ça cette semaine, je me suis dit, c'est quand la dernière fois je me suis préoccupé d'être agréable à Dieu dans mes décisions, dans ce que je parle, dans ce que je sors de ma bouche, mes actions. Puis là, j'ai vu un paquet de péchés que j'ai fait cette semaine, puis je me suis dit, waouh, quand j'ai fait ça, je ne voulais pas être agréable à Dieu, c'est sûr. Mais cette pensée d'être agréable à Dieu, pensez à ça, vous allez voir. La croissance, la maturité spirituelle vient lorsque on réalise, minute par minute, une minute à la fois, qu'on est là pour être agréable à Dieu, être transformé à l'image de Jésus. Non, on ne deviendra pas Jésus sur la planète Terre, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. La transformation complète va être faite lorsque 1 Jean 3,2 nous dit, « Lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme qu'il nous a connus. » Fini la présence du péché, hein, 1 Corinthiens 15, d'un nouveau corps. C'est là que ça finit la transformation. Mais elle commence dès la nouvelle naissance. La transformation ne se fait pas lorsqu'on monte dans les airs, on commence à ressembler à Jésus. Non, elle commence à la nouvelle naissance. Et c'est pour cela qu'il faut garder en mémoire chacun de nous que maturer, devenir des adultes dans la foi, c'est d'être conscient qu'on doit être agréable au Seigneur. Et ça, c'est chacun de nous personnellement, dans nos choix, dans nos priorités de vie, la manière qu'on administre notre temps, nos énergies, notre argent, la manière qu'on parle à nos frères, nos sœurs, la manière qu'on traite nos enfants, la manière qu'on traite nos épouses ou qu'on traite notre époux. Est-ce que c'est agréable au Seigneur, ce que je viens de dire à mon épouse? Ce que j'ai dit à mon époux, est-ce que c'est agréable au Seigneur aussi? Ce que j'ai dit à l'inconverti, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Quelqu'un, un frère qui me dit dehors, « Ah, les homosexuels, on devrait tous les envoyer sur une île et les faire mourir. » Un chrétien qui parle de même, il aurait même mieux entendre, hey, les homosexuels, il faudrait leur présenter l'Évangile qui vient au Seigneur. Ça, j'aimerais ça entendre ça. Voyez-vous, l'idée dans cela, c'est que à quelque part, il y a une maturité, il y a une connaissance de la volonté de Dieu qui est là avec la maturité, la croissance spirituelle. Transformée. Et dans cette croissance spirituelle qui nous transforme, en fin de compte, c'est qu'on est transformé de progrès en progrès, nous dit Thessaloniciens. On est transformé de progrès en progrès. Ça vient à s'en allant. Ce n'est pas que vous levez un matin et vous êtes un super mature, un super spirituel parce que vous avez lu le psaume 119 le soir. Non, non. C'est les épreuves, c'est les temps durs, c'est les pleurs. Samuel a pleuré. Samuel a pleuré pour Israël. Deuxième. Merci. Deuxième, c'est sa communion. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. C'est un autre trait d'un homme passionné pour Dieu. L'Éternel était avec lui. Vous êtes déjà levé un matin, vous couchez un soir, puis ayez des doutes que Dieu vous assiste dans qu'est-ce que vous faites, dans qu'est-ce que vous priorisez dans vos vies. Est-ce que vous, quand vous rentrez dans une chambre, il y a un ombrage qui vient avec vous, là? Cet ombrage-là, là, c'est-tu votre péché ou c'est Dieu qui vous suit? Pense à ça. À quelque part, l'Éternel était avec lui. Le Seigneur l'assistait, complice avec Dieu, cherchant la gloire de Dieu, cherchant la face de Dieu, obéissant à Dieu. Samuel était un héros du chapitre 11 d'Hébreux qui vaut la peine de réfléchir. L'Éternel était près de lui. Que tes demeures sont admirables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languine après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Hey! Là, je lis ce psaume-là, je me dis, ouais, crier à l'Éternel. Pourquoi qu'il crie? Il faut que ça sorte. Puis je me dis à moi-même, mon cœur et ma chair poussent des cris de joie. S'il aurait dit, mon cœur pousse des cris de joie, là, je pourrais vous dire, hey, ça vous tente-tu de crier un cri de joie dans votre cœur? On va faire de silence pendant 2 secondes. Faites un cri de joie dans votre cœur, OK? OK, c'est-tu fait? C'est-tu vraiment fait, là? À cette heure, faites des cris de joie avec votre chair. Comment vous allez faire ça? Ah oui, un cri de joie avec votre chair. Youhou! Hey, as-tu déjà vu quelqu'un gagner 1 million? Youhou! Non, tu te dis, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui réchauffe nos cœurs, qui réchauffe notre être. C'est pas un... Tu sais, on est comme des cartésiens, des on se coupe en deux, là, des dichotomies entre la chair puis l'esprit, puis quand on est spirituel, on est comme ça, puis là, on est charnel, puis, mais on est des êtres humains. On n'est pas encore au ciel. On est des humains que le Saint-Esprit qui est en train de marcher pour Dieu. Je vous l'ai conté l'autre jour, le témoignage du gars à Toronto, hein, faites un signe de tête, vous l'avez-tu conté ça? Je suis à Toronto, puis il y a un pasteur d'une grosse assemblée qui donnait son témoignage. Puis il commence à dire, un monsieur assez âgé, il a commencé à dire, j'ai passé ma vie à vouloir être divin. À être biblique, c'est sa manière de dire divin, lui. J'ai passé ma vie à être divin, à vouloir être divin. Puis il a commencé à pleurer. Il a dit, j'ai réalisé que j'étais un humain. J'étais un humain avec le Saint-Esprit qui marche dans un monde de pécheurs, puis je suis encore un pécheur. Ceux qui essayent de plus faire de péché, là, tombent dans la loi, dans l'extrême. Là, je ne suis pas en train de dire, faites des péchés, vous allez être équilibrés, là. OK? Vous me comprenez? OK? Non, mais je suis en train de dire, à quelque part, mes amis, à quelque part, tombons pas dans le pharisianisme. Nous sommes des humains qui avons le Saint-Esprit, pour marcher dans la lumière, comme le thème de ce matin. Et cette lumière, lorsque nous péchons en pleine lumière. Et 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Hein? Il y a un mécanisme de pardon avec le péché. En pleine lumière. C'est positionnel, la lumière. Et c'est pour cela que la présence de Dieu avec nous est importante. Quand la dernière fois que j'ai prié pour que Dieu soit avec moi? Parce que je présume qu'il est toujours avec moi. Oui, il ne faut pas que je présume qu'il est toujours avec moi, parce que, oui, il est toujours avec moi, mais moi, est-ce que je le sens toujours avec moi? Est-ce que je peux dire ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, les priorités et tout ça, que Dieu est avec moi dans mes décisions, Dieu est avec moi dans ce que je dis, Dieu est avec moi dans ce que je fais, Dieu est avec moi dans la manière que je planifie mon temps, mes énergies, mon argent? Est-ce que Dieu est avec moi? Et c'est ça la grande question, en fin de compte. C'est d'aimer Dieu, de soupirer, de languir auprès de Dieu, cette sorte de relation qu'on pourrait peut-être qualifier de « c'est donc bien énerveux ». C'est des nerveux, ça, là. Écoute, là, ça va être toute une gang de sanguins super pétés, là. Puis ils vont tous se ramasser ensemble, ils vont se jeter à terre, ils vont se rouler à terre. Puis, tu sais, on a toujours les extrêmes. Mais est-ce qu'il y a un équilibre dans cela? Où est-ce qu'on peut se réjouir, pas rien que le cœur, le corps, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, se réjouir de la présence de Dieu en nous et parmi nous? Et c'est ce qu'avait Samuel. Troisième, c'est sa coopération avec Dieu. Samuel, il était là, appelé de Dieu, pour coopérer avec Dieu, être complice aussi, j'aurais pu mettre complice avec Dieu. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Wow! Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, laisser tomber à terre? Même aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. J'arrive pour donner un cadeau à quelqu'un, vous voulez donner un cadeau à quelqu'un, puis au lieu de prendre le cadeau, il le laisse tomber à terre. Qu'est-ce qu'il vient de vous dire? Je ne veux rien savoir de toi. Tu ne m'aimes pas vraiment, tu me donnes un cadeau parce que c'est un piège. Voyez-vous, à quelque part, Samuel prenait au sérieux ce que Dieu dit. C'est important pour lui. Vous savez, le mot mépriser, ce qui veut dire considérer comme pas important. Lorsque je méprise la parole de Dieu, je considère cela comme pas important dans ma vie, donc je mets ça de côté. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Se diriger selon sa parole. Et si on veut aller dans le Nouveau Testament, on peut aller dans le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Pourquoi toute l'écriture est inspirée de Dieu? Pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Est-ce qu'on laisse tomber par terre la parole? Lorsqu'on ne lit plus la parole de Dieu, on la laisse tomber par terre. Lorsqu'on ne prend plus au sérieux la parole de Dieu, on la laisse tomber par terre. Lorsqu'on teurt les Écritures, on la laisse trop tomber par terre. Lorsqu'on diminue Jésus-Christ, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait, on la laisse tomber par terre. Puis je pourrais continuer. Il y a 11 doctrines non négociables. Afin que l'homme, et c'est intéressant, c'est anthropos, c'est pas anère que le mâle. J'ai voulu vous mettre ça parce que dans la Bible, vous, on lit toujours homme. Mais ça parle d'humanité. Afin que l'humanité de Dieu, l'homme et les femmes de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Et Samuel a fait l'œuvre de Dieu dans sa vie dans des circonstances difficiles, terriblement difficiles. Il l'a fait parce que Dieu était avec lui et que Dieu, il ne laissait tomber par terre aucune des paroles du Seigneur. Vous savez, vous pouvez vous poser la question, pourquoi qu'on donne le cours BE, on donne n'importe quel cours, là? Pourquoi est-ce qu'on dit à l'Assemblée, là, septembre s'en vient, on va avoir des cours bientôt, là. Est-ce que vous êtes intéressé à étudier la parole de Dieu? Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'une des responsabilités des anciens, ici, à l'Église, à l'Assemblée, nous, l'Église réunie, pour être plus exact, c'est notre responsabilité comme anciens, c'est la responsabilité des anciens, non pas moi, mais les anciens, de nourrir le peuple de Dieu avec la parole. Parce que c'est ça, en fin de compte, qui est un trait d'un homme et une femme passionnés. C'est des gens qui étudient la Bible. C'est des gens qui prennent au sérieux la Bible. C'est des gens qui ne veulent pas laisser tomber par terre la parole de Dieu parce que c'est important pour leur vie. Et c'est pour cela qu'il y a des cours, qu'il y a des bons livres à vendre. C'est des livres dans les bibliothèques, etc. C'est pour justement encourager les gens à être imbibés de la parole de Dieu. C'est important. Pourquoi? Parce que la lecture de ce monde va changer. Vous allez voir le monde comme Dieu le voit. Et c'est ça notre défi. Un matin, je mentionnais tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Là, je ne le répéterai pas, avec l'Amérique du Nord, tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe avec Corée du Nord. Puis, je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais c'est plein. Vous savez comme moi, hein? Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que Dieu voit ça? On serait supposé, par la grâce de Dieu, d'avoir la même perception de Dieu du monde alentour de nous. The world view, selon Dieu. Et c'est notre défi. Voir les pécheurs comme Dieu voit les pécheurs. Voir la désobéissance comme Dieu voit la désobéissance. Et avoir du discernement spirituel. Issachar avait 250 personnes dans sa famille, dans l'Ancien Testament. Savez-vous ce qu'il faisait, ces 250 personnes-là? Il étudiait l'époque pour savoir à quelle époque Israël vivait. Est-ce que vous savez dans quelle époque vous vivez? Est-ce que je sais dans quelle époque qu'on vit? Ça aide beaucoup pour l'évangélisation. Hein? Ça aide beaucoup pour partager le Seigneur. On doit être imbibé de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est quoi? Elle est vivante. Ce n'est pas une lettre morte. Ce n'est pas un livre normal, la parole de Dieu. C'est un livre vivant. C'est une bibliothèque complète de 66 livres. Plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que c'était pur, hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire la Bible et sauter un verset? Pas le réfléchir. Ça m'est arrivé, moi. Je vous le dis, là, par mon honneur, ça me touchait trop. Ça, c'est vraiment moi, ça. Je voulais pas trop y penser à celle-là. Tu sais, je voulais voir les autres. Mais ça parle. Elle est vivante. Elle est vivante. C'est pour ça que le Seigneur a permis, par sa puissance, qu'on ait la parole de Dieu avec nous. Et on est dans une époque où ce qu'on attaque la véracité de la parole de Dieu énormément, partout, dans les sphères, dans certaines sphères. Alors, elle pénètre, elle est efficace, elle pénètre, puis elle partage, elle coupe à bonne place. Âme et esprit, vous pensez de la différence entre l'âme et l'esprit? Les évangiles sont interchangeables, là, mais c'est juste pour montrer comment est-ce que l'âme morte et l'esprit mort de l'homme, lorsque la parole pénètre, l'esprit vivifie. Et là, on voit clair. On voit clair. Vous connaissez la caverne de Platon? Les philosophes sont dans la caverne. Non? Les philosophes sont dans la caverne. Puis il y a des craques dans les planches. Puis il n'y a rien qu'eux autres qui voient des craques. Passer la lumière d'un craque. La Bible a dit non. Tous les systèmes de pensée humains, tous ces systèmes-là, ils ont tous des craques. Puis la lumière qui passe, c'est Jésus, qui est la solution, pas la philosophie des hommes. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mes amis, lorsque vous lisez la Bible, ça ne vous juge pas, vous ne sentez pas jugé, vous ne sentez pas impliqué, vous ne sentez pas parler, priez. Priez fort. Lorsqu'on lit la Bible, on voit notre cœur méchant et tortueux par-dessus tout. On voit comment qu'il est facile de ne pas être agréable à Dieu. Et c'est des combats spirituels qui nous font maturer, qu'on devient des adultes, mais on ne laissera pas tomber par terre aucune parole du Seigneur. Ça va être important pour nous. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous a rendu, de celui qu'on en rend compte. C'est intéressant, le verset 13, je l'ai mis juste, il est quelle heure, là, et 20. Avoir marqué, ça change, là. Il y a comme, on tombe sur celui que nous devons rendre compte. À qui est-ce qu'on doit rendre compte? Voyez-vous? Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que celui, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, on voit le lien entre Hébreux 4, 12, 13 et le fait que Jésus va juger les hommes. C'est important de voir cela, de réaliser cela, de ne pas laisser tomber cela par cœur. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est qui? C'est Jésus. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et c'est Paul qui nous dit ça lorsqu'il va prêcher à ses philosophes du temps là-bas. Quatrième, rapidement, sa crédibilité. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Sa crédibilité. Voici une marque d'un homme de Dieu. Les gens reconnaissent que Dieu est avec cette personne-là. Ils voient clair. Acte, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était un homme du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Un trait d'un homme passionné de Dieu, c'est qu'on reconnaît cette personne-là qui déteint sur Jésus et non pas sur Elvis Presley. Comprenez l'idée de ça? On déteint sur Jésus. Tu as passé du temps avec Jésus, donc tu ressembles à Jésus. Tu n'as pas passé de temps avec Jésus, donc tu ne réagis pas comme Jésus, tu ne parles pas comme Jésus parlerait, puis tu ne fais pas que les choses que Jésus ferait, puis etc., etc., pour être en bas de la liste. C'est important. Sa crédibilité. Il y a sa constance aussi. Sa constance. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La constance, ça continuait. Une vie qui est constante, pas une vie qui est déséquilibrée, on puis off, on puis off, on puis off. C'est constant. Et le temps me manque, c'est-à-dire là, le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, un héros de la foi de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on regarde tout ça, posons-nous la question. On a parlé de Samuel, ça. Mais pensons pour nous, là. Bon, quand je dis ma conscience, ma croissance, je pense à moi. Pensez pour vous. Ma croissance. Posons-nous la question. Est-ce que je mature dans le Seigneur? Suis-je l'adulte dans la foi que je devrais être? Il faut répondre à ça un jour. Est-ce que lorsque je parle, lorsque je prends des décisions, je ne laisse tomber par terre aucune des paroles de Dieu parce que c'est important pour moi et moi, je veux que Dieu m'assiste, qu'il soit complice avec moi dans toutes les décisions que je vais prendre. Donc, je vais être un adulte dans la foi équilibré. On peut parler aussi de ma communion. Est-ce que Dieu est présent dans ma vie à tout instant? Tu sais, vous allez voir un psychologue, vous dites, moi, je suis habité par le Saint-Esprit, puis Jésus habite en moi. Vous allez vous faire ramasser, puis ramasser en asile. Tu sais, ma communion, tu sais, ma relation avec Dieu, qui est invisible naturellement, hein? Une relation avec Dieu. Ma coopération avec Dieu, est-ce que je suis prêt à coopérer avec Dieu afin de voir le monde comme Dieu voit le monde, afin de voir l'Église comme Dieu voit l'Église, afin de voir les non-croyants comme des non-croyants, puis voir les chrétiens comme des chrétiens en train de grandir avec moi dans le Seigneur, avec le défaut puis le qualité. Oh, vous venez d'apprendre, vous avez des défauts, excusez-moi. Quatrièmement, c'est la crédibilité. Oh, on ne parlera pas de la mouche. Ecclésiaste 10:1. On ne parlera pas de la mouche qui avait arrêté un train. Spurgeon, il compte cette histoire-là. Je vais vous la compter, on reste 2 minutes. Il y a une mouche qui avait rentré dans un cadran de train. Puis la mouche avait arrêté le train. Puis il y avait un article dans le journal qui disait « Une mouche a arrêté le train ». Puis Spurgeon avait pris cette image-là pour parler de la réputation, pour parler de la crédibilité. Ça ne prend pas grand-chose pour parler de notre crédibilité. Hein. Un mot de travail. Car je vous ai dit, vous avez des défauts. Là. Vous allez tout... Est-ce qu'il est là pour dire ça, lui? Perdre notre crédibilité. J'aimerais aller plus loin avec ça. Perdre cette odeur de chrétien parmi les chrétiens, encore plus facile. Parmi le monde, on peut passer bien. Moi, je connais du monde qui me naissait avant, ça fait des années qu'ils ne veulent pas nulle part. Puis j'ai rencontré quelqu'un au jour qui me dit « Ah, elle est chrétienne, elle. » Oui. Robinson Crusoe, là, tu sais, je veux dire, un chrétien tout seul dans son coin. Elle attend vendredi, je ne sais pas quand est-ce que ces choses vont s'arriver là. Mais, allez, gars, c'est un peu ça. Ma constance, c'est quoi ma constance? C'est quoi mon rôle de vie? Tu sais, est-ce que je suis prêt à persévérer? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour suivre le Seigneur? Et naturellement, ma conclusion, c'est encore plus compliqué, hein? Remets dans ça. OK. Comment ça fait ça? C'est compliqué, la conclusion. Je l'ai pareil ici, mais c'est pas grave. On va vous le donner. La conclusion, là, c'est le message. C'est le message de Samuel. Peut-être que vous dites, là, Michel, tu as parlé un matin de prendre le Seigneur au sérieux, ta. Vous sentez peut-être, c'est moi je suis pas dans le game pantoute, là, je ne suis pas là où je devrais être, puis vous pensez que vous n'êtes pas à bonne place, je ne sais pas. Mais Samuel avait un message au travers de ça, avec Israël. Israël qui sortait des juges de le temps de Mika, chacun faisait ce qui lui plaisait. Puis le message de Samuel, dans 1 Samuel 7, 3, c'est « Revenez à l'Éternel ». Revenez à lui. Revenez. Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur ne se lasse pas de tendre ses bras pour vous accueillir. Le Seigneur ne se lasse pas de cela. Ôtez le péché. Puis le mot péché, mes amis, là, j'ai fait une expérience dramatique une fois avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot péché, pour vous? Si vous dites le mot péché devant quelqu'un qui est en dehors, là, qui n'est pas au Seigneur, là, ils vont commencer à rire de vous. Maintenant, ils vont dire c'est un mot bizarre, ça n'existe même pas le péché. Mais dans l'Ancien Testament, il y a quatre mots hébreux pour le mot péché. Le premier, c'est manquer le but. Tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Le deuxième nous parle de transgresser. Tu transgresses la loi de Dieu. Le troisième nous parle d'être troublé. La société devient troublée. Et le quatrième nous parle d'être inquiet. Si tu mets ces quatre mots-là, tu manques le but pour lequel tu as été créé, tu transgresses la loi de Dieu, tu es inquiet et troublé. C'est ça le péché. Et on vit d'un monde de péché, un monde inquiet, un monde troublé, un monde qui transgresse la loi de Dieu, un monde qui manque le but pour lequel ils ont été créés. C'est un monde, hein? Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La responsabilité, c'est nous approcher de Dieu, puis lui s'approche de nous. Et non pas l'inverse. Il s'est approché déjà, il est venu sur la croix, il y a le message, approchons-nous de lui. Dirigeons nos cœurs vers l'Éternel rapidement. Servez-le lui seul. Quand vous faites quelque chose à l'Assemblée, vous ne le faites pas en premier pour l'Assemblée, vous le faites pour le Seigneur. Donc, vous travaillez comme si vous travailleriez pour le Seigneur. Quand je pelletais les marches en 1970, je le faisais pour le Seigneur. Quand je me suis occupé de la librairie pour lire la bibliothèque gratis, je l'ai fait pour le Seigneur. J'ai fait des affaires pour l'Assemblée, puis ça n'a pas marché. Quand je fais des affaires pour le Seigneur, ça fonctionne. C'est drôle, hein? Ça marche de même. Et Dieu vous délivrera, c'est-à-dire Dieu vous donnera la solution. Moi, Samuel, ça a toujours été un héros pour moi. Puis j'ai partagé ça simplement avec vous. Il y a d'autres traits, hein? Il y en a d'autres, comme un homme de prière, parce qu'il intercède, là, il pleure. Il pleure. C'est un homme de prière. C'est un autre trait qu'on aurait pu mettre. Il y en a d'autres. Mais ce matin, je voulais vous emmener dans l'Ancien Testament pour vous réaliser la richesse de l'Ancien Testament, ces histoires d'êtres humains comme nous, avec une nature pécheresse, un peuple qui est comme qui a des beaux parallèles avec le peuple de Dieu. Puis c'est le cœur de l'homme qui est tout le temps pareil. Ça ne change pas, mais la parole de Dieu ne change pas non plus. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le temps ensemble. Et merci pour ce héros, Seigneur, que Samuel est. Un homme qui a été constant, un homme qui a fait des choses pour toi, Seigneur, que tu lui as donné à faire. Et pour nous, Seigneur, nous voulons être comme lui, Seigneur, des hommes et des femmes prêts à entendre ta parole, prêts à vivre pour toi et prêts, Seigneur, à mettre nos priorités selon ta volonté pour nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, tu connais chacun de nous dans nos cœurs. Tu connais nos luttes, nos combats. Tu connais les géants de nos vies, ces péchés qui nous collent à la peau si facilement. Tu connais nos combats. Seigneur, on a besoin de toi. Fais de nous, oui, Seigneur Dieu, fais de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons, à la gloire de ton nom. Amen. Amen.